Est-ce que le micro fonctionne bien? Oui? Parfait. Je profite de vous transmettre les salutations des membres de l'église évangélique libre de Gambetta, donc l'église évangélique libre qui est à Marseille. C'est un plaisir d'être avec vous à nouveau. Et puis de revoir aussi vos visages et puis de pouvoir vivre aussi ces relations qu'il y a entre nos églises. Alors je vous invite simplement à prier, puis ensuite nous aurons le temps de prédication. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de célébration que nous vivons ensemble, pour l'offrande de nos louanges, de notre amour, de notre dévotion, pour te remettre encore et à nouveau nos cœurs. Et nous te prions de rendre nos cœurs attentifs à ta parole qui a déjà été annoncée durant le culte et qui continue d'être annoncée, que nous puissions ressortir de ce lieu en ayant été encouragés, et cela au travers de nos relations les uns avec les autres, de ta parole et de ce que tu as aussi à nous dire encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir comme paralysé? Paralysé peut-être pas physiquement, mais dans une situation où plus rien n'avance. C'est comme si vous étiez paralysé. Oui, vous aussi? Ah, on est pareil alors. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de lire un texte qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, avec quelqu'un qui a une situation paralysée. Mais plus qu'une situation, c'est son corps qui est paralysé. Mais nous verrons que il n'y a pas que son corps qui est paralysé en réalité. C'est Luc 5, versets 17 à 26. Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent, portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade : « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser : « Qui est cet homme qui fait insulte à Dieu ? Qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut. » Jésus devina leurs pensées et leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées ? Est-il plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors il adressa ces mots au paralysé : « Je te le dis, lève-toi, « prends ta civière et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit la civière sur laquelle il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Amen. Combien de fois ne réalisons-nous pas que nous aussi, nous sommes en fait paralysés? Bon, des fois, on le réalise dans une situation particulière, mais bien d'autres fois, on ne réalise pas que nous sommes paralysés par toutes sortes de choses. Ça peut être l'orgueil, la jalousie, la culpabilité face à des choses que nous avons pu faire. Ça peut être de la superstition, ça peut être même de la cupidité, de la haine, des convoitises, voire de l'idolâtrie. Ça peut être bien des choses différentes qui peuvent être des péchés ou qui peuvent être une réaction à certains péchés que nous avons faits. Ça peut être une mauvaise compréhension de Dieu ou finalement de la vie spirituelle, de la vie avec le Seigneur. J'imagine quelqu'un qui a péché et qui porte un fardeau immense parce qu'elle ne comprend pas que le Seigneur veut lui pardonner, que la grâce est réelle et qu'il peut demander pardon et recevoir avec foi le pardon. Ça peut être des devoirs religieux qu'on accumule sans comprendre que Dieu est bien plus que cela. Jésus est venu pour accomplir la loi, non pas pour l'annuler, mais nous permettre finalement de ne plus être sous le joug de la loi, mais de recevoir son fardeau qui est doux et léger, la grâce qui vient nous transformer. Ça peut être toutes sortes de choses. Et ici, nous découvrons un paralysé physique, quelqu'un qui est malade dans son corps, et que ses amis vont amener jusqu'à Jésus dans un but bien particulier. Le but des amis de cet homme, c'est que Jésus guérisse le corps de cet homme. Et dans ce texte, dans cette narration, le fil de la narration nous fait découvrir autre chose. Alors, vous imaginez peut-être, il y a la foule, la maison, la foule est à l'intérieur, peut-être même autour de la maison, à écouter, il y a tellement de monde qui veut entendre les paroles de Jésus et puis voir ce qui se passe parce qu'il fait des miracles. Puis il y a ses amis de cet homme. On parle plus de ses amis finalement que de cet homme lui-même au début. Ses amis se disent « Jésus peut faire quelque chose pour lui ». Alors ils prennent sa civière, ils se rendent à la maison et là ils n'arrivent pas à entrer. Ils veulent présenter cet homme devant Jésus. Et ça a l'air bien compliqué. Ça a l'air bouché. L'homme n'arrive pas à se présenter à Jésus par lui-même. Il a besoin de ses amis qui font des efforts assez importants finalement pour le hisser sur le toit. Alors il y avait probablement un escalier, mais pour défaire le toit, pour que dans le toit il y ait un trou. Alors imaginez, on est ensemble, imaginons que la salle soit remplie, que Jésus est là, qu'il nous parle et que tout d'un coup le toit commence à s'ouvrir. Sûrement il y a poussière qui tombe, heureusement pas de tuiles pour pas avoir quelqu'un à guérir en plus, mais ça doit quand même faire bizarre, n'est-ce pas? Vous imaginez le toit qui s'ouvre tout d'un coup? Et une civière qui descend, et Jésus qui voit cet homme, la foi de ses amis, qui sont convaincus que Jésus peut le guérir. Et à quoi est-ce qu'on s'attend à ce moment-là? Moi, je m'attendrai à ce que Jésus guérisse cet homme. Et ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe en premier. Jésus voit quelque chose de beaucoup plus important que la paralysie physique de cet homme. Alors peut-être que nous espérons être guéris physiquement de quelque chose ou que nous avons des proches qui prient et qui demandent au Seigneur d'être guéris physiquement. Et c'est une bonne chose, hein? Demandons au Seigneur, parce qu'il peut le faire. Néanmoins, des fois Dieu répond oui, d'autres fois, il ne répond pas comme nous le voudrions. Parfois, il dit non, ce n'est pas ce que j'ai prévu. Et parfois, il dit ce n'est pas le moment. Et ici, nous découvrons une demande Et Jésus qui ne répond pas tout de suite à la demande. La personne qui est dans cette civière a besoin de vivre autre chose. Elle a besoin d'être guérie à l'intérieur. Elle a besoin de recevoir le pardon de ses péchés. Ce n'est pas que sa maladie est liée nécessairement à des péchés. Non, dans un autre passage, dans l'évangile de Jean, on découvre un aveugle qui est malade et puis les disciples disent à Jésus, « Mais qui c'est qui a péché, lui ou ses parents ?» Et Jésus leur dit, « Non, ce n'est pas ni lui ni ses parents. » Et il va manifester la gloire de Dieu en le guérissant. Ne faisons pas des liens que l'évangile ne fait pas. Ce que l'évangile nous montre par contre, c'est qu'il y a un besoin à l'intérieur des êtres humains, de chacun, et qu'au travers de ce que Jésus va faire pour cet homme, c'est-à-dire en disant devant tout le monde « tes péchés te sont pardonnés », il va montrer à tout le monde qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, pour que tout le monde présent dans cette maison sache qu'il est venu pour cela. Parce qu'il n'y a pas que cet homme qui a besoin d'avoir ses péchés pardonnés. En le disant à cet homme, il le montre à tout le monde qu'il a ce pouvoir et qu'il est venu pour cela. Et que par conséquent, toutes les personnes qui étaient présentes dans la maison avaient besoin aussi d'être pardonnées. Jésus va donc aller au cœur de ce qui est sa mission. Il est venu pour amener le pardon des péchés. Et en le disant devant tout le monde, devant les pharisiens, devant les maîtres de la loi, devant le peuple qui est là, il y a des réactions. Alors, du côté des religieux qui se disent, mais par quelle autorité fait-il cela? Comment est-ce qu'il ose dire ça? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors bien sûr, en disant cela, Jésus montre qu'il vient de Dieu, qu'il est lui-même Dieu et qu'il a ce pouvoir en tant que, il dit, en tant que fils de l'homme. Mais le terme fils de l'homme renvoie à Daniel qui présente un être céleste qui a une apparence d'homme et qui siège pour le jugement des nations. C'est le Messie qui règne sur l'univers entier et qui est bien présenté avec des attributs divins. Et Jésus, en fait, en se présentant en tant que fils de l'homme, est en train de dire « Mais je suis le Messie divin qui doit venir. » Par conséquent, Jésus affirme avoir l'autorité divine pour pardonner les péchés. Il est lui-même Dieu le Fils, venu parmi nous. Et d'une manière indirecte, puisqu'il ne dit pas « Je suis Dieu », mais d'une manière beaucoup plus manifeste, il va démontrer qu'il est le Messie divin, Dieu venu parmi les êtres humains, qui pardonne les péchés, et en guise de signe, il va guérir aussi cet homme physiquement, pour que tous sachent que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus sait donc le raisonnement des pharisiens, des responsables de la loi. Il le répond, mais le but qu'il a en faisant cette guérison, bien sûr, c'est une manifestation de sa bonté envers ce paralysé. C'est une manifestation du royaume de Dieu que le Messie est là parmi les hommes. Mais c'est une manifestation aussi de son pouvoir pour pardonner les péchés. C'est lui-même qui le dit. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, eh bien je te le dis, lève-toi et marche. Est-ce plus facile de pardonner les péchés ou de guérir cet homme? Eh bien je te le dis, lève-toi et marche. Et ainsi Jésus va montrer à tous qu'il est bien le Sauveur envoyé dans le monde. Et nous? Est-ce que nous reconnaissons avoir besoin de son pardon, nous aussi? Or, je suis dans une église. Parmi nous, j'imagine que nous sommes nombreux à croire que Jésus est venu pour pardonner nos péchés. Et je l'espère, nous sommes nombreux aussi à accepter ce pardon, à avoir fait et à faire cette démarche, pardon Seigneur pour mes fautes, j'ai besoin de ta grâce. Et avec foi, recevoir cette grâce, croire que oui, Jésus est venu pour effacer nos péchés. Oui, c'est vrai, je suis encore pécheur et je fais de mon mieux pour ne pas pécher, pour ne pas déplaire à Dieu, mais je sais que si je tombe, je demande pardon au Seigneur et je crois qu'il me pardonne parce qu'il m'aime, parce qu'il est venu pour ça, parce qu'il a payé pour moi, parce que je lui appartiens et que son sang me couvre et efface mes fautes. Est-ce que je crois à cela? Ou est-ce que je laisse le poids de la culpabilité m'écraser? Quand j'avais 15-16 ans, j'étais vraiment croyant, je croyais dans le Seigneur, je savais qu'il était mort pour moi, j'étais baptisé, et en même temps j'avais un poids énorme par rapport au fait que j'étais encore pécheur, que ça m'arrivait encore de faire des choses qui déplaisaient au Seigneur. Et je me disais, mais Seigneur, est-ce que je suis pardonné? Est-ce que je suis sauvé ou pas? Et je lui demandais pardon et je lui disais encore, est-ce que je suis sauvé ou pas? Et j'ai eu besoin de retourner en fait à ce que l'Écriture dit, à ce que Jésus dit. Et de réaliser que oui, demander pardon, c'est manifester la foi que nous avons en Jésus, la foi qu'il nous pardonne. Et que oui, si j'ai cette foi, je peux lui faire confiance qu'il me pardonne. Et même si je ne sens pas que je suis, je peux ne pas sentir que je suis pardonné. En fait, le pardon, ce n'est pas une question de sentiment. La foi, c'est croire à ce que l'on ne voit pas. Jésus n'est pas venu devant moi pour me dire, t'inquiète, tu es pardonné. Non, c'est sa parole que je crois. Il m'a donné sa parole et je peux croire dans sa parole qui dit, demandez pardon et croyez que vous êtes pardonné. Parce que Jésus a payé, parce que nous appartenons au Seigneur. Et par conséquent, nous pouvons vraiment croire que nous sommes pardonnés. Et finalement, lui laisser cette culpabilité qui ne vient plus du Seigneur. Certes, quand nous avons péché, nous pouvons nous dire, j'ai fait quelque chose de mal, il faut que je demande pardon. Et c'est une bonne chose. Mais en demandant pardon, en retournant directement au Seigneur, eh bien, croyons que nous sommes pardonnés parce qu'il nous pardonne. C'est sa parole qui nous le dit. Et en tant que croyants, parce que nous lui appartenons, même si nous tombons, nous continuons de lui appartenir. Son sang continue de nous couvrir. Et parce que nous lui appartenons, retournons tout de suite auprès de lui en disant « Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon. Aide-moi par ta grâce, non seulement, certes, à être pardonné, mais à pouvoir faire mieux, à ne plus pécher. » Et nous retomberons peut-être encore, mais à chaque fois, retournons auprès du Seigneur. Mais il y a aussi des personnes qui ne croient finalement pas qu'ils ont besoin du pardon de Dieu. Quand j'étais au lycée, je discutais avec un ami qui avait beaucoup de problèmes personnels et qui était convaincu que Dieu était une béquille et qu'il n'en avait pas besoin. Il me disait « Oui, mais toi tu crois en Dieu, c'est bien, mais Dieu c'est une béquille. Moi j'ai pas besoin de cette béquille. » Alors qu'il en aurait eu vraiment besoin. Mais bon, il était convaincu que croire en Dieu c'était une béquille, c'était une illusion qu'on se faisait pour aller mieux, finalement. Dieu, ça m'apporte quelque chose, c'est comme, manger un bon dessert après le repas, on est content et l'après-midi se passe bien, ou je ne sais pas. C'était psychologique pour lui. Et en y réfléchissant, alors je ne lui ai pas dit, parce que je n'y avais pas pensé à ce moment-là, mais je me suis dit, mais en fait, quelqu'un qui a une jambe en moins, il a besoin d'une béquille. Et s'il ne prend pas cette béquille, il ne va pas pouvoir marcher. Alors peut-être que j'ai besoin de reconnaître, oui, que j'ai besoin d'une béquille, parce que je suis amputé, parce que je suis pécheur, coupable, et que j'ai besoin du pardon de Dieu. Et s'il ne reconnaît pas qu'il est lui aussi amputé, peut-être que c'est par orgueil de ne pas vouloir reconnaître sa propre condition, qu'il a lui aussi besoin de Dieu et du pardon. Néanmoins, je ne dirais pas que Dieu est une béquille. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'une béquille, une fois qu'on l'a utilisée et qu'on va mieux, bon, ben, on s'en passe, on n'en a plus besoin. Et des fois, des personnes viennent à Dieu parce qu'ils en ont besoin dans une circonstance difficile, et une fois que ça va mieux, ah, c'est bon, j'ai plus besoin de cette béquille. Non, Dieu n'est pas une béquille. Dieu est finalement comme cette jambe qui manquerait à quelqu'un et qu'il y aurait besoin d'avoir. Si quelqu'un n'a plus de jambe, il a un manque. Il a besoin, non pas de béquille, mais il aurait besoin de jambes, de quelqu'un qui le porte ou carrément d'avoir de nouvelles jambes. Et en quelque sorte, Dieu, ce sont nos jambes. Ou si, si on prend l'image d'un paralysé, de quelqu'un qui n'a plus l'usage de ses jambes ou qui n'a plus de jambes, qui est estropié, eh bien Dieu est vraiment ce qu'il a besoin. Mais parce que Dieu, en fait, est celui dont nous avons besoin pour être pleinement humain. Blaise Pascal, ce grand mathématicien, disait « L'être humain a en lui un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut combler. » En recevant par la foi Dieu, ce vide en nous est comblé. C'est comme si nous étions amputés d'une partie de nous-mêmes dont nous avions besoin parce que nous sommes faits pour Dieu et que sans lui, il nous manque quelque chose. Nous sommes humains, mais en croyant en Dieu, Dieu nous rend pleinement toute notre humanité parce que notre humanité est faite pour Dieu, parce que dans notre humanité, il y a une place centrale pour Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Une image de Dieu ou une image de quelque chose sans ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Un portrait de quelqu'un, si ce quelqu'un n'existe pas, c'est un portrait avec un trou au milieu. Ça n'a pas de sens. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour être en relation avec Dieu. Nous sommes faits pour lui. Et par conséquent, Dieu n'est pas une béquille. Il est celui dont notre constitution a pleinement besoin. Est-ce que nous sommes conscients que le Seigneur, notre Dieu, veut nous rendre totalement ce que nous sommes à nous-mêmes, en venant dans nos vies? Ce n'est pas un Dieu qui vient pour dominer ou dire, comme un tyran en quelque sorte, « Vous avez besoin de moi !» Mais c'est un Dieu qui nous aime et qui veut nous donner pleinement tout ce dont nous avons besoin. Et c'est pour cela qu'il dit, « Vous avez réellement besoin de moi. » Sommes-nous conscients de cela? Et si nous avons des personnes qui sont autour de nous, ou peut-être nous-mêmes, qui ne sommes pas conscients de cela, ou qui ne sont pas conscientes de cela, eh bien, est-ce que nous pourrions être comme ces amis qui portent la civière de cet homme, qui prient pour ces amis, pour ces personnes qui finalement ne reconnaissent pas encore qu'elles ont besoin de Dieu, non pas comme une béquille, mais comme celui qui vient vraiment combler leur propre identité au plus profond d'elle-même. Peut-être aussi que nous avons, comme le paralysé, besoin, nous croyons au Seigneur, mais nous avons besoin aussi de frères et de sœurs qui nous aident à venir vers Dieu, à venir pour abandonner un fardeau trop lourd aux pieds de Jésus. Tout comme ce paralysé va laisser ses péchés en premier aux pieds de Jésus. Et peut-être dans l'épreuve que nous pouvons rencontrer, lui c'était la paralysie, nous pouvons rencontrer des épreuves difficiles, nous avons besoin d'être entourés et d'aller ensemble aux pieds du Seigneur pour lui remettre aussi nos fardeaux. Alors, ça peut être nos péchés, si la culpabilité nous écrase, ou si nous avons tout d'un coup réalisé que nous avons besoin de confesser un péché et de pouvoir être accompagnés, encouragés aussi, pour pouvoir changer. Peut-être que c'est simplement des fardeaux qui nous pèsent dans la vie au quotidien, comme la maladie physique de cet homme. Ça peut être des fardeaux psychiques, moraux, au travail, dans la famille, physique aussi bien sûr. Et des fois on n'arrive pas tout seul. On a besoin des autres, des frères et sœurs, pour ensemble déposer aux pieds du Seigneur ce qui est trop lourd pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à demander l'aide des frères et sœurs si quelque chose de lourd nous pèse, pour pouvoir ensemble le porter et l'amener au Seigneur? Ce texte est riche de beaucoup d'enseignements et on pourrait aller encore dans beaucoup de détails, il y a tellement de choses à dire, mais je resterai simplement là-dessus. Est-ce que nous pouvons être des personnes qui portons la civière des autres? Et est-ce que nous sommes aussi suffisamment humbles pour accepter d'être portés quand nous en avons besoin? Je vous invite simplement à un temps de silence, de réflexion, de méditation. Seigneur, nous avons bien des fois besoin d'être soutenus. Aide-nous dans l'humilité à pouvoir se soutenir les uns les autres. Et priez aussi, portez aussi les personnes qui, comme nous des fois, avons besoin et ont besoin d'être portées dans la prière, mais aussi porter, encourager, ne pas être laissé seul pour pouvoir venir à toi, se confier en toi encore et encore. Permets-nous aussi, Seigneur, d'être ces compagnons qui portent les personnes qui ont besoin d'être délivrées de leurs péchés, d'être secourues dans leur paralysie spirituelle et de pouvoir venir à toi et ne pas te voir comme une béquille psychologique, mais comme un organe central et nécessaire qui leur manque, afin que le vide en forme de toi qui est dans leur cœur puisse être comblé. Permets-nous et donne-nous le privilège et la grâce de pouvoir aussi être utilisés dans ce sens, autour de nous. Seigneur, c'est humblement que nous venons encore à toi pour te dire pardon pour nos fautes. Nous avons besoin de ta grâce encore et nous voulons te faire confiance parce que nous savons que tu as payé pour nos péchés et que tu es plein de grâce. Alors que ta grâce non seulement nous pardonne mais aussi nous donne la force et l'aide, l'assistance par ton esprit pour pouvoir chuter moins. Amen. Je vous propose de chanter un cantique en réponse à cette prédication et juste avant la Sainte Cène. Tu peux naître de nouveau.